VOA Afrique, les infos à Washington.
John Lyndon à la présentation. Bonsoir à tous. Le président béninois Patrice Talon a reçu samedi à Cotonou les représentants des syndicats du secteur de la santé pour trouver un accord après plus de 2 mois de grève paralysant le système sanitaire du Bénin. Les travailleurs du secteur de la santé réclament l'amélioration de leurs conditions salariales qu'ils craignent de voir revue à la baisse. Le chef de l'État, plusieurs ministres et les syndicats ont notamment établi un chronogramme pour le paiement des primes impayées dues aux travailleurs de la santé lors de la réunion qui a duré près de 3 heures. Le ministre égyptien des Affaires étrangères effectuera une tournée dans le Golfe et plaidera pour des solutions politiques au moment où les tensions montent dans la région, notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran, a annoncé le ministre samedi. Le président togolais Fornia Sibé a accusé l'opposition d'être responsable des violences qui ont fait au moins 16 morts en 2 mois et demi de mobilisation populaire contre son régime lors d'un déplacement dans une caserne militaire hier. La ville de Kisangani, l'un des principaux centres urbains dans l'est de la République démocratique du Congo, subit une méga panne d'eau et d'électricité depuis jeudi. C'est ce qu'on apprend ce samedi de sources concordantes. Toujours en RDC, 18 miliciens présumés, dont un député provincial poursuivi pour viol et enlèvement de fillettes en République démocratique du Congo, ont comparu vendredi devant la justice militaire dans le sud de Kivu. Le député provincial Frédéric Batoumike et ses 17 co-accusés sont poursuivis pour crimes contre l'humanité par viol et meurtre et pour participation à un mouvement insurrectionnel, a déclaré un de leurs avocats.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Guinée, plus de 8 ans après le massacre de Conakry, les juges d'instruction ont finalement bouclé l'enquête. Le 28 septembre 2009, 157 personnes ont été tuées et 109 femmes violées dans un stade de la capitale lors d'un rassemblement contre la candidature de Moussa Dadis Camara. Pour un éclairage, Nathalie Barge a joint à Conakry le ministre guinéen de la Justice, Cheikh Sako.
Hier, officiellement, le ministère de la Justice a annoncé la clôture de cette instruction, cette affaire du 28 septembre 2009, parce que le pôle des juges d'instruction, 3 magistrats, a communiqué le dossier relatif à ces événements au procureur de la République, le tribunal compétent, pour règlement définitif. Un avis d'ordonnance a été effectivement donné aux avocats et la clôture interviendra dans quelques jours, quelques semaines, après les réquisitions du procureur de la République. Donc c'est une satisfaction pour la justice guinéenne, pour le gouvernement guinéen et pour le peuple guinéen. Il est important pour la nation guinéenne que ce procès arrive à son terme. Donc c'est la première partie qui s'achève par la fin de l'instruction. Dans les semaines à venir, on va entamer la préparation matérielle du procès à venir, dont la date sera fixée ultérieurement.
Est-ce que le procès, selon vous, va se tenir donc en 2018 ?
Comme on vient de terminer l'instruction, la procédure d'instruction qui a été longue quand même pendant un peu plus de 7 ans, vraisemblablement, le procès se tiendra en 2018. Mais je ne peux pas l'affirmer actuellement puisque je vais mettre sous pied un comité de pilotage qui va travailler sur les conditions matérielles et financières du procès et ensuite on va officiellement annoncer la date.
Est-ce que vous travaillez en collaboration étroite avec les associations de victimes ou est-ce que vous en avez l'intention si ce n'est pas le cas ?
Nous travaillons à toutes les parties. D'abord avec les partenaires au développement qui nous soutiennent, le gouvernement des États-Unis qui nous soutient, l'Union européenne, mais également les grandes ONG qui représentent une partie des victimes ici. Dans le comité de pilotage, beaucoup de parties seront représentées puisque c'est la préparation matérielle. Tout au long de la procédure d'instruction, les victimes ont été écoutées. Moi-même, à la chancellerie, je reçois souvent et de façon cyclique les représentants des victimes, ce qui est tout à fait normal.
Est-ce que Dadis Camara va être convoqué en Guinée ?
Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question. Il appartiendra aux magistrats de décider s'ils le font venir pour assister et pour participer à ce procès.
C'est la fin de ce bulletin d'information présenté par John Lyndon. Merci à Magdalene Adamou qui nous suit depuis Kano au Nigeria. Bonsoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.
Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité.
Bon voyage, monsieur.
Bon voyage, madame.
Tout le monde. Les amis, ici c'est votre gars Roger Moutou en direct de Washington. Nous allons découler aujourd'hui avec les Rolling Stones. Aujourd'hui c'est samedi, R&B and Rock. Aujourd'hui c'est beaucoup plus rock et on décolle avec ce morceau.
I'm dog, people think I'm crazy. Stuffing on my feet, shuffling to the street, asking people, what's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself, sometimes I say,
la bonne musique aujourd'hui, les amis. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique. On est ensemble, 001-202-619-3140 de Rolling Stone. Et bien sûr, de Rolling Stone, connu parce que, c'est pas un groupe comme les autres, hein. Ça, il faut quand même le dire. C'est un groupe qui a cartonné beaucoup pendant plusieurs années et que les amis d'Abidjan, de Kinshasa, de Libreville ont beaucoup adoré les chansons de Rolling Stone. Et d'ailleurs là, je suis en train de lire quelques messages des amis qui sont en train de nous capter en direct de Kinshasa, K-Town. Et là, je vais parler d'abord de Alphonse Mbouaki qui nous capte en direct de K-Town, Kinshasa, qui parle aussi de Rolling Stone. Vous savez, le Rolling Stone, c'était un groupe de rock britannique formé à Londres en 1962 par le guitariste et leader original Brian Jones, le pianiste Ian Stewart, les chanteurs Mick Jagger, qu'on connaît tous, hein, une grande star, et le guitariste Keith Richards, le bassiste Bill Wyman et le batteur Charlie Watts, qui les rejoignent aussi ensuite et complètent la formation originale. Jagger et Richards constituent rapidement un duo, hein, on doit le dire, d'auteurs-compositeurs, et ils prennent peu à peu la direction du groupe en lieu et place d'un Brian Jones de plus en plus erratique. Ian Stewart, jugé peu apte à jouer les idoles des jeunes, selon les préférences de l'époque, hein, est envoyé du groupe et renvoyé du groupe. Hein. Déjà, il faisait partie du groupe, mais il a été renvoyé après en 1963, mais continuera à travailler avec les Stones comme road manager. Voilà, un manager qui les accompagne dans des tournées et clavieriste aussi jusqu'à son décès en 1985. Le nom du groupe, The Rolling Stone, vient d'une chanson de Muddy Waters, Rolling Stone, choisie par Brian. Le blues a toujours été la source d'inspiration principale des Stones, qui ont été l'un des principaux acteurs du retour de cette musique sur le devant de la scène à travers le British Blues. I'm musique à partir de 1966 et de l'album Aftermath, les chansons des Jagger et Richard Ambili par les expérimentations instrumentales de Brian Jones développe une diversité stylistique, on doit le dire, qui restera présente jusqu'à nos jours. Hein. Jones meurt noyé dans sa piscine en juillet 1969. Peu de temps après avoir été renvoyé du groupe, il est remplacé par Mick Taylor qui participe à l'enregistrement de 5 albums studio avant de quitter les Stones en 1974. L'ancien guitariste de Faces, Ronnie Wood, prend alors sa place et la conserve depuis lors. Billy Wayman quitte à son tour le groupe en 1993. Le bassiste Daryl Jones rejoint alors le groupe sans en devenir un membre officiel. Les Rolling Stones, les amis, ont publié 22 albums studio au Royaume-Uni, 24 aux États-Unis, 8 albums live, 9 aux États-Unis et 32 compilations. En 2012, le groupe estime avoir vendu, écoutez, tenez-vous prêts, le groupe estime avoir vendu plus de 400 millions d'albums dans le monde. Aïe, 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 c'est pas petit. On écoute aujourd'hui le Rolling Stones. la bonne musique aujourd'hui. Les amis, vous savez, ce groupe de Rolling Stones sont entrés, les Rolling Stones, comme ils appelaient, hein, tout ça, sont entrés au Rock and Roll Hall of Fame en 1989 et Mick Jagger a été anobli par la reine d'Angleterre en 2002. Leur image de mauvais garçon rebelle véhiculée dans les années 1960 est une référence majeure pour les générations de musiciens rock qui les ont suivis après plus de 50 ans de carrière. Les Stones, tous septuagénaires, hein, comme on doit dire, continuent à se produire sur scène et avec succès dans le monde entier et ne manifestent aucune intention de mettre un terme à l'existence du groupe. On est en train de déguster, bien sûr, ce morceau de Rolling Stones. Ce sont les stars, vraiment, vraiment des stars, on doit le dire, hein, beaucoup de respect. Je rappelle que ce groupe comprenait Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Charlie Watts et Bill Wyman.
Down-to-earth flavor. Close my eyes.
bonne musique que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui dans RM Show, une émission de VOA Africa. Les stones symbolisent la vitalité de l'état pur et c'est pourquoi ils sont toujours présents aujourd'hui. Ça, c'est une citation de Martin Scorsese qui a parlé ainsi, qui pense ainsi, bien sûr, de Rolling Stone. Les Stones sont véritablement le plus grand groupe de rock de la planète et ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.